Il est 11h30, Info Mag avec Jean-François Baudin.
Les élections provinciales auront bien lieu en juin 2026. Le Conseil constitutionnel a validé la loi organique adoptée par le Parlement. Le 50e congrès du Palika s'ouvre ce soir à Téné. Parmi les questions à l'ordre du jour, son positionnement vis-à-vis du FLNKS. Des produits et services haut de gamme, le salon Prestige est ouvert ce matin à l'Amirauté. Il se poursuit encore demain. En métropole, l'homme qui a foncé sur des passants sur l'île d'Oléron s'est radicalisé seul grâce aux réseaux sociaux, mais le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi du dossier. Faire des travaux dans son jardin peut rapporter gros. Près de Lyon, un homme qui creusait sa piscine a découvert un trésor en lingots et pièces d'or. Et puis en sport, 3 défaites et une seule victoire. C'est le bilan du jour pour les clubs français engagés dans les différentes coupes européennes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Comme chaque vendredi, vous retrouverez le magazine Transparence juste après. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Et cette semaine, vous recevrez Nicolas Metzdorf.
Oui, Nicolas Metzdorf qui sera l'invité de Transparence. Nous l'interrogerons bien sûr sur le processus de mise en œuvre de l'accord de Bougival, sur le report des élections provinciales, sur la situation économique ou encore sur le prochain déplacement de la ministre des Outre-mer qui est attendu lundi. On se retrouve donc d'ici une demi-heure pour cette interview de Nicolas Metzdorf, le député de la première circonscription.
Et à 16h45, on vous retrouve pour le club politique Radio Rythme Bleu.
Et au sommaire ce soir, la visite de la ministre des Outre-mer, bien sûr, et l'interrogation « Où en est-on dans le processus de Bougival ?» Nous évoquerons également la modification de la composition du gouvernement. Nous nous demanderons ce qu'il faut attendre du congrès du Palika. Et nous parlerons enfin du conflit de la DEC. Un club politique qui débute à 16h45 avec ce soir un grand témoin, Christopher Gigès, le porte-parole du gouvernement, qui viendra nous apporter son éclairage sur ces différents sujets d'actualité.
Vous venez de l'évoquer, Elisabeth, le Conseil constitutionnel a donc validé le report des élections provinciales qui doivent se tenir au plus tard le 28 juin 2026. Il valide la loi organique, mais il précise que ce troisième report devra être le dernier.
La loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie est conforme à la Constitution, décide le Conseil constitutionnel. Il valide donc la loi organique qui a été définitivement adoptée par le Parlement le 29 octobre dernier, mais il précise dans son communiqué que ce nouveau report suit deux précédents reports qui avaient été opérés par deux lois organiques du 15 avril 2024 et du 15 novembre 2024. Il relève que si ce troisième report pour une durée maximale de 7 mois a pour effet de porter à 25 mois au plus la durée cumulée du report des élections, il revêt, de même que la prorogation des mandats qui l'accompagnent, un caractère exceptionnel et transitoire. En reportant de nouveau le renouvellement général des membres du Congrès et des assemblées de province, le législateur organique a entendu tenir compte de la poursuite des discussions entre les partenaires politiques de l'accord de Nouméa pour parvenir à la conclusion d'un accord qui soit consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, ajoute le Conseil constitutionnel. Il précise que cet accord inclut une modification des règles de composition du corps électoral spécial qui aurait vocation à s'appliquer à ces élections. Ce faisant, il a poursuivi un but d'intérêt général, estime le Conseil. Dans ces conditions et compte tenu des circonstances particulières qui ont conduit à l'adoption de la loi, le choix fait par le législateur organique n'est pas manifestement inapproprié à l'objectif qu'il s'est fixé. Le Conseil qui précise enfin que la durée totale de ce report, qui ne saurait être étendue au-delà, ne méconnaît pas le principe constitutionnel selon lequel les citoyens doivent exercer leur droit de suffrage selon une périodicité raisonnable.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Dans quel domaine attendez-vous surtout des réponses de la part de la ministre des Outre-mer qui arrive lundi? Si c'est d'abord dans le domaine politique et institutionnel, vous tapez 1. Si c'est d'abord dans le domaine économique et social, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, et vous êtes dubitatif, 50% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent en effet que la reprise des services de cantine à partir du 12 novembre signifie la fin du conflit entre la DEC et les collectivités. Ils sont aussi 50% à penser que ce n'est pas le cas. Revenons à l'actualité politique. Le Palika réunit à partir d'aujourd'hui et pour 3 jours son 50e congrès à Bouraï sur le site de Téné. Les différentes délégations vont rejoindre le site aujourd'hui et c'est demain à 9h que sera prononcé le discours d'ouverture de ce 50e congrès du Palika. Pour Judicaël Sélefen, l'un des porte-parole du parti, c'est un congrès qui marque un tournant dans l'actualité politique du pays et une étape pour l'accession à l'indépendance. Il indique que 3 grands défis ont été identifiés.
Premier défi, défi, c'est la reconstruction du pays et la prise en charge de la crise sur un pas de temps de 8 mois, donc à court terme. Et le parti devra dire comment il envisage de traiter la sortie de crise et la prise en charge de la crise sur tous les niveaux, hein, institutionnels et politiques. Le deuxième sujet, c'est la poursuite des discussions sur l'avenir. Donc, on est revenu de Paris en juillet dernier avec un compromis dit accord de Bougival. Donc, le parti devra dire, hein, comment il voit ce dispositif comme un moyen d'accéder à l'indépendance. Il va falloir qu'il le précise et poursuivre son action de communication et d'appropriation des Calédoniens à ce compromis politique. Et enfin, cette stratégie qui va être définie, le parti devra dire comment il envisage de s'organiser. Donc ça, c'est le portage politique en interne au sein du parti, au sein de l'organisation du FLNKS et aussi de l'Union nationale pour l'indépendance.
Il s'agira au cours de ce congrès de décliner les grandes orientations politiques en termes de stratégie pour les 8 mois qui nous séparent des provinciales et de définir comment le parti séquence la mise en œuvre de l'accord politique de Bougival. À l'occasion de ce 50e congrès, le Palika va aussi préparer sa rencontre avec la ministre des Outre-mer.
Ça fait partie du deuxième point, c'est la poursuite des discussions et la mise en œuvre de l'accord. Donc, au regard de ce qui s'est passé depuis le 2 juillet, le parti devra dire comment il envisage la suite, les discussions avec le ministre, qu'est-ce qu'il en attend de cette rencontre avec la ministre, quelles sont les positions que le parti souhaite porter au sein de la délégation de l'Union nationale pour l'indépendance dans le cadre de ses rencontres avec le gouvernement central.
Et puis, autre question à aborder lors de ce congrès de Téné, le positionnement du Palika vis-à-vis du FLNKS.
Ça fait partie d'un sujet, donc ça relève de l'organisation et du portage politique. Donc, cette stratégie qui va être déclinée, en tout cas dans ses grandes orientations, le parti devra dire comment il mobilise ses outils. Donc, un des outils pour lesquels il s'est toujours mobilisé, c'est le FLNKS. Aujourd'hui, on connaît la situation. Donc, il va falloir dire quelle est la situation du parti vis-à-vis du FLNKS. Ça fait partie des sujets, oui.
Des propos recueillis par Kélinda Boiscou. Les travaux du 50e congrès du Palika débuteront demain matin et seront clôturés dimanche. Un incident hier aux abords de l'école publique Fernande Le Riche à Nouméa. Alors que les élèves étaient en pause de midi, des jeunes individus auraient tiré avec une arme factice sur les élèves. Un événement traumatisant que déplore le vice-président de l'APE de l'école, Aurélien Lalanne.
Selon les remontées des élèves même, hein, on n'est pas au courant officiellement. Donc ça serait 2 personnes en moto qui auraient tiré avec des balles à gel là, et qui auraient touché des enfants pendant le temps de la pause du midi. Donc évidemment, les enfants sont un peu traumatisés, quoi, hein. Pas de blessés, alors c'est pas l'affaire du siècle, mais nous en tant que parents, on est vigilants sur tout ça, parce que le geste, vous imaginez le geste tiré sur des enfants dans une école. L'école c'est un sanctuaire, on n'y touche pas, donc on pense que c'est un acte isolé, il ne faut pas donner trop d'importance non plus pour pas trop dramatiser, mais on reste vigilants, s'il faut rester aux abords pour surveiller, on y sera.
Les services de police n'ont pas été appelés pour cet incident, mais une enquête pourrait être ouverte. Et puis dans l'actualité de ce vendredi également, le MEDEF-NC qui réagit aux propos relayés par le magazine Made In, attribué à la FINC, des propos remettant en cause la viabilité de la SLN, Lionel Sabot.
Des propos qui, estime le syndicat patronal, présenté, je cite, avec un enthousiasme naïf, son démantèlement comme une filière d'avenir, au mépris des milliers d'emplois directs et indirects dépendants de son activité. Le MEDEF qui, dans un communiqué, rappelle que, je cite encore, dans la situation économique actuelle, la SLN est un acteur industriel structurant, porteur de savoir-faire, d'emplois qualifiés et contributeur majeur à la survie des comptes sociaux de la Nouvelle-Calédonie, qu'aucun scénario de démantèlement ne saurait remplacer. Il est dangereux, écrit encore le MEDEF, de présenter la fermeture d'usines comme inévitable, voire comme une solution d'avenir. Une telle rhétorique fragilise la confiance, décourage les investissements, sans considération pour les milliers de salariés pleinement investis dans la survie de leur outil de travail. Le MEDEF Nouvelle-Calédonie, qui pour conclure ce communiqué, réaffirme son plein soutien à la SLN et à l'ensemble des salariés et des sous-traitants de la filière, convaincus qu'une stratégie industrielle ambitieuse fondée sur la transition énergétique et la compétitivité reste non seulement possible, mais indispensable à l'avenir économique du pays. Fin de citation.
Il est 11h40, on va tourner une première pause dans ce journal et on se retrouve pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La STACH, c'est la marche solidaire contre le cancer. Samedi 8 novembre à Nouméa, venez marcher et afficher votre plus belle moustache en soutien aux malades. Vous n'en avez pas? Pas de problème. Un bar à moustache se chargera d'en fournir, même aux femmes. Samedi 8 à Nouméa, aidez-nous à soulever des fonds pour l'association des malades du cancer. Animation, restauration, village d'information et l'ose à gagner. L'association compte sur vous. Inscription sur proevents.nc, la STACH.
Rendez-vous les 7 et 8 novembre pour une nouvelle édition du Salon Prestige à l'Amirauté. Deux jours d'exposition, d'élégance et de partage réunissant une trentaine d'artisans et de commerçants passionnés au cœur d'un cadre d'exception. Venez découvrir des créations uniques dans les univers de la mode, des bijoux, du design, de l'épicerie fine, de l'automobile et bien plus encore. Un événement Pacific Fair en partenariat avec l'Amirauté, le groupe Jando, Elle Calédonie et Radio Rythme Bleu.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La saison cyclonique s'est ouverte le 1er novembre dernier, période à laquelle les forces armées en Nouvelle-Calédonie se préparent depuis de longs mois. Nous en avons parlé ce matin à 7h30 avec le général Soubrier, le commandant supérieur des FANC. Il était en effet notre invité à 7h30, Lionel.
Une préparation qui passe par la mise en place d'un certain nombre d'exercices, le dernier en date étant l'exercice à Manouo et qui s'est achevé il y a une semaine sur la base aérienne 186, lieutenant Paul Klein, et dont nous avons parlé sur cette antenne. Une préparation des FANC mal connue par les Calédoniens, mais et qui entre totalement dans les missions qui sont confiées aux forces armées en Nouvelle-Calédonie, nous disait ce matin le général Soubrier.
Nous avons une présence militaire permanente dans l'océan Pacifique, et notre vocation est avant tout d'être apte à répondre, et immédiatement. D'abord face à une menace extérieure, pour protéger la population et le territoire, et donc une forme de dualité de notre mission, puisque une aptitude à pouvoir répondre immédiatement aussi à une catastrophe naturelle. Donc nous sommes effectivement rentrés administrativement dans la période cyclonique le 1er novembre. Nous nous entraînons et nous avons une préparation opérationnelle tout au long de l'année pour ces deux missions concomitantes que je viens de citer, pour protéger et secourir les populations en cas de catastrophe naturelle.
Les exercices organisés pour préparer la période cyclonique ont plusieurs objectifs. Il s'agit bien évidemment de coordonner les moyens en hommes et matériel d'un point de vue opérationnel, mais aussi en termes de commandement. Il s'agit également de renforcer encore un peu plus le lien entre nos armées et la population.
Lorsque nous intervenons, nous répondons à une demande de concours de la part du haut-commissaire, et ces exercices participent directement à ce lien. De la même manière, intervenir lors d'une catastrophe permet aussi de resserrer les liens entre l'armée et la population, lien qui est entretenu au quotidien, mais qui est encore plus renforcé lors d'une crise naturelle. Nous appuyons effectivement au quotidien la population calédonienne, puisque en 2025, nous en sommes déjà à 41 opérations de secours à la population. Pour mémoire, en 2024, nous avons mené 30 et en 2023, 25. Ce sont effectivement des évacuations sanitaires, ce sont des missions de recherche et de sauvetage en mer. Nous avons une forte croissance de ces interventions vers la population. Nous avons un système d'alerte qui est permanent. Les femmes et les hommes des forces armées en Nouvelle-Calédonie sont en alerte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à ses besoins d'intervention.
Le lien armée-nation qui sera également au cœur des prochaines cérémonies de commémoration du 11 novembre qui marqueront dans quelques jours le 107e anniversaire de l'armistice qui avait mis un terme à la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918.
Chaque occasion de commémorer nos morts, de commémorer ceux qui sont tombés pour nous défendre, pour défendre la liberté, chacune de ces journées devrait être célébrée. Donc je pense qu'il n'y en a pas trop. Le 11 novembre est une date particulière. Depuis plus de 100 ans, nous avons le bleuet de France.
Oui, que vous portez d'ailleurs
Que je porte tout à fait. Voilà, on le porte entre le 1er et le 11 novembre. Voilà, la devise du bleuet de France, c'est aider ceux qui restent. Et l'objectif du bleuet, c'est vraiment d'aider les blessés de guerre, les pupilles de la nation, les conjoints, voilà, de ceux qui sont tombés. Le bleuet de France, c'est aussi un lien, c'est un lien mémoriel, et c'est un lien aussi pour la jeunesse, voilà, de se raccrocher à ce passé commun, et pour lever la tête, regarder vers l'avenir. Nous nous retrouverons très bientôt, justement, place Bir Hakeim, pour de belles cérémonies.
Le général de brigade Gabriel Soubrier, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, invité du matin sur Radio Rythme Bleu, interview qui est à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
La commune de Wailou devient un territoire éducatif rural. Le vice-rectorat a signé ce matin une convention en ce sens avec les représentants de l'État et des collectivités territoriales. Ce dispositif permettra de concentrer les efforts des acteurs concernés située sur cette zone où le niveau scolaire est particulièrement faible. Les enfants et adolescents de Wailou seraient dès la rentrée prochaine accompagnés dans leur parcours scolaire jusqu'à leur entrée dans la vie professionnelle. Direction Osaka, les étudiants du BTS ERA, agence espace intérieur du lycée Jules Garnier, se sont rendus au Japon dans le cadre de leur programme d'études pour assister à l'exposition universelle d'Osaka, un voyage sous l'impulsion du ministère de l'Éducation nationale avec un cofinancement de la fondation franco-japonaise Sasakawa. Explication d'Olivier Ancy, il est professeur d'arts appliqués et culture design au lycée Jules Garnier.
On est parti 14 jours pour voir l'exposition universelle d'Osaka, donc un immense anneau en bois de 2 km de diamètre, 20 mètres de haut à l'extérieur et 60 000 mètres carrés sur lesquels sont disséminés 188 pavillons de tous les pays du monde. Chaque pavillon représente une forme qui représente un message. Donc on a eu la chance d'en voir 4. Ils ont réussi à puiser et à, on va dire, réutiliser des expériences qu'ils avaient acquises précédemment, comme par exemple l'expérience du coworking. Donc c'est vraiment travailler ensemble. Ils ont vraiment pu réexpérimenter cette expérience sur place à travers des projets. Donc ils ont réalisé un parchemin collaboratif qui leur permet de garder la mémoire de l'événement et qui devrait être encore questionné parce qu'il y a encore beaucoup de choses à exploiter, beaucoup de notions à poursuivre. Et ils vont réexploiter toutes ces données à travers des projets l'an prochain. Et on espère qu'ils ont vraiment vécu un moment exceptionnel, une aventure pédagogique exceptionnelle, et qu'ils en garderont de très beaux souvenirs.
Grâce à ce voyage, les élèves ont pu découvrir une autre culture, mais aussi d'autres manières de travailler et des utilisations de techniques traditionnelles. Un voyage qui a rassemblé 16 étudiants et 2 accompagnateurs pour une durée de 14 jours.
C'était incroyable, on a vu plein de choses. Parce qu'on n'a pas été seulement pour l'expo, on a vu des temples, des sanctuaires. De base, nous on pensait que c'était que pour ça. Et partir 2 semaines juste pour l'exposition, c'était un peu dommage. Du coup, on a fait un peu pas le tour du Japon, mais on essaie de voir le plus possible.
Pour moi, ce voyage, c'était vraiment extraordinaire parce que on découvrait de nos yeux. C'était la première fois quand même qu'on voyageait. Je trouve que l'exposition à Osaka, c'était vraiment modernisé, mais aussi traditionnel en même temps.
Partir au Japon, c'était une grande aventure pour moi, parce que j'ai pas vraiment voyagé dans ma vie. Du coup, partir là-bas, c'est une expérience dans l'ensemble. On apprend beaucoup de choses, en fait. Mais aussi, on a pu découvrir tout l'environnement japonais.
Une restitution plus complète de ce voyage sera organisée en 2026 au Centre culturel Jean-Marie Tchibaou. Le Nouméa Women's Forum touche à sa fin. Une dernière journée d'échange s'est déroulée ce matin au centre administratif de la province sud. Au programme, une conférence inspiration, une lecture des textes des ateliers d'écriture. L'événement se referme par la mise à jour du livre blanc. En revanche, le salon du prestige, lui, il a ouvert ses portes ce matin à l'Amirauté, Nicolas Legrand.
Oui, un salon qui fait son retour cette année après l'annulation l'année dernière en raison des émeutes. Et forcément, avec la crise économique que connaît la Nouvelle-Calédonie, c'est dans un format un petit peu particulier qui s'est ouvert ce matin. Écoutez Bruno Aurélien, le gérant de Pacific Fair qui organise ce salon.
C'est une satisfaction. C'est vrai qu'on s'était posé la question, comme tout le monde, au vu de l'économie, est-ce que c'était raisonnable de relancer un salon prestige ? On a décidé de relancer le salon prestige, donc plutôt en mode artisanat d'art, avec des artistes locaux, également des gens qui vont proposer de l'épicerie fine, donc vraiment du 100% local, à part 2-3 marques bien connues. Mais c'est vrai qu'on a plutôt décidé de le tourner sur des produits uniques et surtout disponibles sur le territoire. Vraiment un beau travail. Vous verrez dans les salles, que ce soit dans la joaillerie, le bois, il y a vraiment des choses extraordinaires. La photographie également, pour vraiment passer 2 belles journées dans un cadre vraiment exceptionnel.
Et à l'entrée du salon, les stands dédiés à la gastronomie proposent des produits de qualité pour Johan, chef à domicile. Le prestige, c'est avant tout un bon produit bien cuisiné. Le chef Bonhomme, c'est le nom de sa structure, vous propose aussi d'apprendre à cuisiner avec lui lors des prestations.
Pour moi, ce qui est prestigieux, c'est d'utiliser les produits locaux et de les mettre en valeur au maximum. Pour moi, c'est ça le prestige. Tout va dépendre de ce que les gens veulent préparer chez eux. Forcément, si tu me demandes de préparer de la langouste ou du foie gras, ça va coûter un peu plus cher que de faire, par exemple, un menu entrée plat dessert 100% local. Donc non, c'est carrément abordable, surtout à partir du moment où il y a plusieurs personnes. À partir de 5-6 personnes, ça commence à être très correct. Avec donc du coup le cours de cuisine plus l'entrée plat dessert, je sais pas, sur une base de 5-6 personnes, on va être à 4-5 000 par personne, sachant que je fournis les produits et que je me déplace.
Et les artistes sont aussi présents lors de ce salon du prestige, à l'image de Maxime Rouault. Avec sa société 22 bis, il propose de reproduire des œuvres d'art calédonien sur différents supports, notamment des serviettes. Une façon pour les artistes de présenter leur travail et de rencontrer un autre public.
On est présent sur beaucoup de salons, mais on essaye aussi d'être présent sur des salons où il n'y a pas forcément la place pour beaucoup d'artistes. En étant au salon du prestige, on s'attend à avoir un peu une clientèle entre guillemets qui est réceptive à l'art. ça nous permet d'avoir, on va dire, une certaine notoriété et en même temps visibilité. Donc on travaille beaucoup avec Pacific Fair depuis qu'on s'est lancé. Et eux, ils sont très portés justement sur les artistes. Il va y avoir un live painting aujourd'hui avec Ops, avec qui j'ai fait plusieurs partenariats sur des fresques qui sont actuellement exposées à Paris. Petit à petit, ça permet aussi de retrouver d'autres artistes, de voir comment ils travaillent, quelle est leur démarche, laisser la place finalement à de nouvelles créations, quoi.
Et le Salon du Prestige se tient donc aujourd'hui et demain à la Mimérotée, c'est donc de 10h à 19h.
L'actualité dans la région et la Corée du Nord dans le viseur de l'Australie et des États-Unis. L'Australie et son allié veulent en effet s'en prendre aux activités criminelles qui permettent au régime de Pyongyang de financer le développement de ses armes de destruction massive. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a annoncé dans un communiqué que des cybercriminels accusés de financer en partie le programme nucléaire nord-coréen viennent de faire l'objet de sanctions financières et d'interdiction de se rendre en Australie. Elle a ajouté que son pays, je cite, « travaille avec les États-Unis pour priver la Corée du Nord des ressources nécessaires au financement de ses programmes d'armes de destruction massive et de missiles balistiques ». Cette annonce est venue en réponse au rapport selon lequel des cybercriminels nord-coréens ont volé une somme équivalente à 135 milliards de nos francs en crypto-monnaie à des entreprises du monde entier rien que l'an dernier. Après avoir qualifié ces activités de profondément préoccupantes, Penny Wong a demandé au régime de Pyongyang d'abandonner tous ces programmes militaires illégaux de manière complète, vérifiable et irréversible, a-t-elle insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
11h52, une nouvelle pause avant de voir l'essentiel de l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Solenco, la référence pour la pose de vos sols. Parquet, sol souple, ragréage, particulier ou pro, choisissez la qualité. Solenco, 83 92 99. Solenco, la qualité sous vos pas.
Votre tranquillité d'esprit avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
Et les habitants de l'île d'Oléron sont encore sous le choc. Hier, un homme a foncé sur les piétons et les cyclistes pendant plus d'une demi-heure, faisant 5 blessés. Les 2 blessés dans un état grave sont toujours à l'hôpital, mais leur vie n'est plus en danger. L'enquête se concentre maintenant sur le profil de l'assaillant, un homme de 35 ans, connu des services de police, mais pas des services de renseignement. Apparemment, il se serait radicalisé récemment, c'est ce qu'a indiqué le procureur de la République de La Rochelle, Arnaud Larès.
Il motivait son acte en indiquant avoir suivi les ordres d'Allah, qui lui intimait de faire un sacrifice. Il déclarait s'être tourné vers le catholicisme dans un premier temps, puis s'être converti récemment à l'islam, seul et à l'aide des réseaux sociaux. Il déclarait avoir souhaité mourir en s'immolant, mais n'était pas parvenu à faire exploser son véhicule.
Toujours en garde à vue, l'homme sera présenté à un juge pour tentative d'assassinat. Le parquet national antiterroriste, à ce stade de l'enquête, ne s'est pas saisi de l'affaire. La menace de l'islamisme radical n'est pas la seule insécurité. L'ultra-violence de certains jeunes également. On se souvient de la mort du jeune Elias, tué en janvier dernier par 2 mineurs multirécidivistes parce qu'il refusait de leur donner son téléphone portable. À la suite de ce drame, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, avait commandé un rapport que l'inspection générale de la justice vient de lui rendre. Rapport qui est une liste de dysfonctionnements de la justice. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Des interdictions de contact jamais respectées, des audiences repoussées pendant des mois et des mesures éducatives jamais mises en œuvre. C'est tout un pan du système judiciaire pour mineurs qui vacille, selon le rapport de l'inspection générale de la justice. Les agresseurs d'Elias, 16 et 17 ans, étaient connus pour leur violence répétée, mais malgré leurs antécédents, la justice n'a pas su les encadrer. Le procureur demande un contrôle judiciaire, refusé car les juges estiment que les deux adolescents ont exprimé des regrets. Leur suivi éducatif éducatif, il ne commencera jamais faute d'éducateurs disponibles. L'un des deux récidive, son audience est reportée plusieurs fois et quand la justice se décide enfin à agir, les deux ont déjà replongé dans la violence. Un système débordé, des décisions qui s'accumulent sans suite. Il n'y a pas de fatalité, martèle aujourd'hui la mère d'Elias. Ceux qui ont tué mon fils n'auraient jamais dû être là.
Coup de chaud à l'Assemblée nationale la nuit dernière pour nous. Des jeunes filles voilées ont assisté dans les rangs du public à la séance des questions au gouvernement. Le port de signes religieux est inacceptable dans les tribunes de l'hémicycle, a déclaré Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Réaction également du député RN Julien Odoul.
C'est la première fois qu'on assiste à ce spectacle déplorable pour la République française de voir des fillettes porter le voile islamique dans le temple de la République française.
Et de son côté, la France insoumise, qui ne fait pas dans la demi-mesure, accuse Yaël Braun-Pivet, par la voix du député Thomas Porte, d'islamophobie.
C'est une polémique raciste et islamophobe. Et je le dis, c'est extrêmement grave. Yaël Braun-Pivet, hier, a repris la même rhétorique que Julien Odoul, la même rhétorique que l'extrême droite, en s'acharnant sur des jeunes filles qui n'avaient rien demandé à personne.
Le règlement intérieur de l'Assemblée insiste sur le fait que les visiteurs doivent rester assis, silencieux et découverts. Un point pas assez clair concède certains députés qui souhaitent que le règlement soit précisé. Faire des travaux dans son jardin peut réserver de bonnes surprises. C'est ce qui est arrivé à un habitant de Neuville-sur-Saône, près de Lyon, devenu l'heureux propriétaire d'un véritable trésor. Le récit de Jean-Luc Boujon.
Cela s'est passé en mai dernier. L'homme, propriétaire de sa maison depuis seulement un an, décide de creuser un trou dans son terrain pour construire une piscine. Premier coup de pelle mécanique et le voilà qui tombe sur plusieurs sachets en plastique renfermant 5 lingots d'or et de nombreuses pièces, en or également, valeur totale 700 000 euros. Un homme très honnête puisqu'il est allé directement en mairie pour signaler sa découverte. Des recherches sont effectuées, notamment par la gendarmerie, pour savoir si les lingots n'ont pas été volés. Mais ce n'est pas le cas. Du coup, l'homme est devenu propriétaire du magot. Alors ici à Neuville-sur-Saône, personne ne connaît l'identité de cet homme, mais l'histoire fait beaucoup parler depuis ce matin.
Je suis un ancien paysagiste, j'ai fait beaucoup de trous dans les jardins, mais j'ai pas eu cette chance. Non, jamais rien trouvé.
Il a beaucoup de chance, c'est que j'aimerais être à sa place. C'est un cadeau de la vie, donc bah voilà, il le méritait, je me dis ça. Il y a une bonne étoile au-dessus de lui, bah c'est très bien.
Pas vous ?
Non, sinon je serais pas là. J'aurais déjà réservé un avion pour les tropiques. Dommage, c'est pas un ami.
On a clamé un petit billet.
Alors ici, on ignore si l'homme habite toujours ici. L'or aurait été fondu et enterré il y a une vingtaine d'années, selon l'enquête des gendarmes, qui n'a pas pu aller très loin, l'ancien propriétaire de la maison étant décédé.
Il est 11h57, on va se retrouver dans un petit instant pour la dernière page de ce journal, c'est évidemment l'actualité sportive et on retrouvera ensuite le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Vous êtes une entreprise, association ou collectivité ? Vous réduisez, réutilisez, recyclez les déchets ou vous souhaitez vous lancer dans cette démarche ? La Province Sud et l'ADEME peuvent financer votre projet. Pour cela, il suffit de répondre à l'appel à projet Économie Circulaire avant le 14 novembre. Rendez-vous sur le site province-sud.nc. La Province Sud, agir pour l'avenir.
Peugeot, Subaru, Citroën, Chevrolet, Isuzu et plein d'autres grandes marques automobiles vous donnent rendez-vous les 6, 7 et 8 novembre prochains pour le Salon du Village Automobile. Le Salon du Village Automobile, c'est l'événement auto de l'année. 11 grandes marques sur un seul site, un grand parc de véhicules d'occasion, des offres uniques jusqu'à 1 million de francs de remise et nos partenaires financiers pour simplifier vos projets. Ambiance festive, animation, jeux, surprises pour toute la famille et 700 000 francs de carburant à gagner. Ouvert de 7h30 à 18h, entrée gratuite. Le Salon du Village Automobile, c'est du 6 au 8 novembre au PK4 à Nouméa.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Tirage au sort le 14 novembre. Valeur totale du lot 700 000 francs. Règlement disponible sur cph.nc ou chez Maître Citrita.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
On va commencer par le football et la suite ce matin des Coupes européennes. Lionel Sabot, Lille, Lyon, Nice et Strasbourg étaient engagés en Europa League et en Ligue Conférence.
Oui, une matinée de football à oublier pour les clubs engagés en Ligue Europa. En effet, Lille, Nice et Lyon se sont inclinés. Lille a été battu 1-0 sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade. Deuxième défaite pour le LOSC dans cette compétition européenne. De son côté, Nice s'est incliné à domicile devant les Allemands de Fribourg. Défaite 3-1 des Aiglons qui n'ont toujours pas inscrit le moindre point dans cette Europa League. Ligue. Enfin, Lyon qui restait sur 3 victoires de rang dans la compétition. Lyon s'est fait surprendre sur la pelouse des Espagnols du Betis Séville. Défaite 2-0. La seule bonne nouvelle pour les clubs français engagés ce matin sur les pelouses européennes, c'est la victoire de Strasbourg sur la pelouse des Norvégiens de Haken. Strasbourg qui reste invaincu dans cette compétition.
Et Didier Deschamps a lui communiqué la liste des joueurs appelés en équipe de France pour affronter l'Ukraine et l'Azerbaïdjan dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026.
Les attaquants Ryan Cherki et Rando Colomwani ainsi que le milieu de terrain N'Golo Kanté ont été rappelés en équipe de France par Didier Deschamps. Cherki et Colomwani retrouvent les Bleus alors que les deux Parisiens, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, sont indisponibles pour plusieurs semaines pour cause de blessures. Didier Deschamps a également choisi de rappeler le vétéran N'Golo Kanté ainsi que Warren Zaïre-Emery. La France a besoin d'un succès contre l'Ukraine le 13 novembre au Parc des Princes pour valider sa qualification pour le Mondial. Joué un 13 novembre, cela ne ravit pas forcément le sélectionneur de l'équipe de France. Et pour cause, il y a 10 ans, c'est près du Stade de France, en marge d'une rencontre amicale entre la France et l'Allemagne, qu'avaient eu lieu les premières attaques de ce que l'on appelle depuis les attentats du 13 novembre.
Au fond de moi, si on avait pu éviter de jouer ce 13 novembre, ça aurait été bien. C'était possible, c'était pas possible. J'ai pas les réponses et ça dépend pas de moi. Après vous avoir dit ça, oui, c'est une journée particulière avec les différentes commémorations qui seront organisées. Sincèrement, je me sens pas la force de parler de ce qui s'est passé, tout simplement par rapport au respect que j'ai pour les familles qui ont souffert et qui ont perdu des êtres chers. Donc j'y étais, mais j'ai pas envie. Mais le devoir de mémoire, il doit être toujours là, et tout ce qui sera fait sera important. Et il y a un match de foot qui est à cette date-là, donc, et qui est très important pour nous.
Et j'ajoute qu'après ce match contre l'Ukraine, l'équipe de France rencontrera l'Azerbaïdjan. Ce sera le 16 novembre.
Allez, encore un petit mot de football pour souligner la belle performance de l'équipe de Nouvelle-Calédonie des moins de 17 ans qui dispute en ce moment, vous le savez, au Qatar, la Coupe du Monde de sa catégorie d'âge. Après une défaite 6-1 face au Portugal, les Calédoniens ont décroché un très beau match nul, 0 partout face au Japon. Prochain match pour ces Calédoniens, ce sera dans la nuit de lundi à mardi et ce sera face au Maroc. Et puis un mot de judo pour terminer avec Abedias Trindade-Abreux qui a été sacré champion du monde chez les moins de 81 kilos dans sa catégorie des 50-54 ans. À Paris, Abedias a conservé le titre qu'il avait décroché l'an dernier aux États-Unis. Il est midi 2, c'est la fin de ce journal.